Aujourd'hui, nous allons parler recrutement. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Alors vous savez que nous avons fait quelques podcasts sur le recrutement. On a fait un podcast qui s'appelle Mettre la barre haut, un autre qui s'appelle Boomerang, un autre qui s'appelle Embaucher du personnel surqualifié et on en a même fait un qui s'appelle Ne recrutez pas. Mais en fait, cette approche n'a jamais été complète parce qu'il me manquait des éléments, par exemple la relation avec le prestataire, les techniques d'entretien, la démarche comportementale, la manière de vendre le poste au candidat, etc., etc., etc. Donc, vous étiez frustré, j'ai eu des messages de votre part, et moi aussi, j'étais frustré de ne pas pouvoir vous proposer une approche complète du recrutement. Et puis j'ai rencontré Jérémy Coron, avec qui on a déjà fait une interview, et en discutant ensemble, on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être vous proposer quelque chose. Donc dans ce podcast, on va vous exposer notre vision du recrutement. Vous verrez que c'est une approche peut-être un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur le recrutement. C'est l'approche d'outils du manager. Et bien sûr, on vous parlera un petit peu en fin de podcast d'une nouvelle formation qu'on a créée tous les deux, Jérémy et moi. Donc, Jérémy, est-ce que tu m'entends ?
Je t'entends très bien, Cédric.
Bonjour à toi. J'espère Bonjour, que tu vas bien.
Je vais super bien. Ravi de revenir sur le podcast.
Et ouais, c'est la première fois que je crois que quelqu'un revient une deuxième fois.
Bah super, c'est un honneur.
Peut-être que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast d'avant où tu étais déjà venu.
Pas de problème. Alors, je vais axer ma présentation sur l'aspect recrutement, car ouais. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le podcast. Alors moi, j'ai commencé à recruter à l'âge de 18 ans, donc assez tôt. Et j'ai fait que ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait du recrutement et du recrutement tous les jours. D'accord. Tout simplement. Que ce soit sur des profils assez élevés, des profils peu qualifiés, dans tous les secteurs, j'ai vraiment tout vu durant ces 10 années. J'ai fait uniquement, par contre, du recrutement en tant que prestataire. Je n'ai pas fait en entreprise. Je n'ai pas été recruteur, par exemple, comme un manager qui est amené à recruter. Moi, j'intervenais chez des entreprises, chez des clients, pour recruter directement leurs collaborateurs. Un peu en transversal pour les aider sur le recrutement. Donc, j'ai fait ça durant 10 ans. Daisy, dis-moi.
Ouais, donc c'est ça qui était vraiment intéressant aussi, c'est d'être complémentaire dans notre approche.
On voit les deux visions un peu,
c'est ça. Une partie du sujet, en fait.
C'est ça. Et donc, je fais ça durant 10 ans. J'ai fait au total 7 ans en tant que consultant en recrutement et puis 3 ans en tant que responsable recrutement, où là, j'allais un peu plus loin. Je formais des collaborateurs, je les accompagnais sur les bonnes pratiques, sur la mise en place d'outils, sur des stratégies, etc. Tout ce dont on a parlé, en fait, ensemble dans la formation, au final.
Ok, super. Bon, bah écoute, si t'es prêt, peut-être tu veux nous dire deux mots sur ce que tu fais maintenant, même si c'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, ça fait pas de mal.
Alors c'est pas dans le sujet d'aujourd'hui effectivement, mais ça fait pas de mal comme tu dis. Alors aujourd'hui, j'ai récemment pu réorienter un peu mon approche. Au départ, après avoir quitté le recrutement, j'ai voulu maxer un maximum sur les soft skills, comme tu le sais très bien. Mais de plus en plus je creusais ce sujet-là, plus je me suis aperçu que le plus important au final était la santé du cerveau et le fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi aujourd'hui, j'axe réellement mon travail au travers d'un podcast sur comment améliorer son cerveau, ses facultés cognitives pour mettre en application efficacement ses compétences, tout simplement. Mmh. Ça passe par l'alimentation.
On en a un petit peu parlé lors de l'interview qu'on avait faite la dernière.
C'est ça, exactement. J'étais un peu au balbutiement de l'approche à l'époque et là, je l'ai un peu perfectionné de plus en plus. Et donc, ça passe par plusieurs piliers principaux tels que l'alimentation, le sommeil, et également tout ce qui est lié à l'environnement et aussi à l'activité physique et cérébrale. Okay. En quelques lignes, c'est ce que je fais moi aujourd'hui.
Le nom du podcast, juste pour...
Ah, il s'appelle pour l'instant, je risque de le changer, Soft Skiller.
Soft Skiller.
Ce que je te propose de faire, Cédric, si tu es d'accord bien sûr, c'est de mettre un lien description du podcast pour amener les personnes intéressées sur mon contenu.
Sans souci, avec plaisir. Ok, en fait, ce que je te propose pour la suite du podcast, c'est que tu m'interviews sur la partie, orientée management, qui va être la plus grosse partie du podcast, puisqu'on est sur un podcast orienté management. Puis à mon tour, moi, je t'interrogerai sur la partie recrutement, mais plutôt les techniques de recrutement et puis les relations avec le prestataire. Et puis on finira en disant deux mots sur la prestation, si ça te va bien.
Ça marche. Déjà, on commence par présenter peut-être le plan du podcast.
Oui, en fait, on a prévu 4 parties. La première partie, l'acte de management le plus important, mais le moins bien maîtrisé, c'est le recrutement. Deuxième partie, on va voir que l'acte de recrutement, c'est un acte de management au sens complet du terme, et on verra les étapes qui implique le management. Ensuite, en troisième partie, on parlera du mindset, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, quand on fait un recrutement, on doit éviter d'avoir le même mindset que quand on fait du management. J'expliquerai ça plus en détail. Et puis en quatrième partie, on regardera tous les autres éléments importants du recrutement en dehors du management. Et puis on conclura par deux mots sur la formation qu'on vient de lancer sur le sujet.
Super. Donc déjà, première chose que tu nous dis, c'est que recruter est l'acte de management le plus important. Ça veut dire quoi précisément pour toi? Comment tu l'interprètes ça?
Alors la première chose qu'il faut comprendre à propos du recrutement, c'est que le recrutement, c'est là où vous avez le plus de leviers. Il y a un auteur qui est assez connu, américain, qui a écrit beaucoup de choses sur les sociétés qui réussissaient. Et donc, il avait une phrase qui était « Get the right people in the bus ». Donc, cet auteur, il s'appelle Jim Collins. Vous le connaissez peut-être. Et donc, ce qu'il dit, il dit « La base de la base de la base du management, c'est déjà de faire monter les bonnes personnes dans le bus et de les mettre au bon siège ». Ça veut dire que le recrutement, c'est la voie royale, en fait, pour avoir une bonne équipe. Il te manque une compétence, il te manque de la capacité, tu veux du sang neuf, c'est par le recrutement que tu vas trouver ta réponse. Et donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est que le recrutement, c'est un énorme levier de performance. La deuxième chose, c'est que, très clairement, bien recruter, c'est ce qui va permettre de bien manager. C'est toi qui choisis la personne. Et si tu as choisi la bonne personne, tu seras un bon manager parce que tu as choisi quelqu'un qui te correspond, qui correspond à ton équipe. Et donc, ça va faciliter tout le process de management qu'il y aura après. Et ça, je l'ai réalisé vraiment au moment où je me suis dit, tiens, on va faire une formation là-dessus. Je me suis dit, chez Outils du Manager, on parle toujours de comment bien manager. Mais en fait, la base, c'est déjà de bien recruter. On ne choisit pas toujours ses collaborateurs, mais quand on a la chance de pouvoir choisir un nouveau collaborateur, vraiment là, il ne faut pas se planter. C'est pour ça que je dis, en premier lieu, que l'acte de management le plus important que vous puissiez faire, c'est vraiment de recruter. Et si on prend l'approche négative, on voit aussi que c'est un des paris parmi les plus risqués qu'un manager va faire. Pourquoi ? Parce que si on se plante sur cet acte-là, ça ruine l'esprit de l'équipe. Ça génère un coût énorme pour l'équipe, à la fois moral mais aussi budgétaire, hein, parce que quand on recrute mal, déjà on a toute une phase d'un premier recrutement, ensuite on a tout le temps qu'on perd à essayer d'intégrer la personne alors que c'est pas la bonne personne, et puis enfin il va falloir licencier la personne et relancer un process de recrutement. Donc en fait, comme on met du temps, hein, en général, à se rendre compte qu'on a mal recruté, on va amplifier encore le phénomène coût et le phénomène négatif sur l'équipe. Donc c'est vraiment, moi j'appelle ça, j'ai une expression, c'est un mauvais recrutement, c'est l'enfer sur terre, quoi. C'est vraiment le truc, si vous vous plantez, c'est extrêmement, extrêmement grave. Donc, ça c'est l'approche négative, pour montrer que c'est un acte de management extrêmement important, c'est de démontrer que si on se plante, ça a des conséquences négatives, elles aussi, très importantes.
Super, mais ce qui est paradoxal, tu nous dis en parallèle que c'est l'acte qui est le moins bien réussi. Pourtant, il y a beaucoup d'enjeux derrière, donc ouais. Pourquoi c'est l'acte qui est le plus compliqué à mettre en place, le moins bien réussi, comme tu le dis très bien?
En fait, il y a plusieurs raisons. J'en vois trois. La première, c'est que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. La deuxième, c'est que on va dire qu'il y a un tas de méthodes qui existent, et donc c'est difficile de se fixer sur une méthode. Et la troisième, c'est que souvent, quand on recrute, on est soumis à une pression très importante. Donc je vais prendre chaque élément. La première chose, c'est que l'acte de recrutement, il est extrêmement important, et malheureusement, c'est un acte qu'on ne fait pas souvent. Donc, en général, on n'est pas très fort sur les choses qu'on ne fait pas souvent. D'ailleurs, si je prends le principe inverse, c'est-à-dire si je dis « on devient très fort sur les choses qu'on fait souvent », c'est exactement le principe d'outil du manager. C'est-à-dire que le principe d'outil du manager, c'est de mettre en place des outils simples, mais des outils qu'on va utiliser toutes les semaines, et donc on va devenir très très bon dans ces outils pour manager nos collaborateurs. C'est le principe de répétition. C'est-à-dire que plus tu fais de feedback, plus tu fais de 1 à 1, meilleur tu vas devenir en feedback et en 1 à 1, et donc meilleur manager tu vas devenir. C'est un peu le principe des 10 000 heures, hein, où on dit que c'est avant tout la pratique qui nous permet d'être très très fort dans un domaine. Donc malheureusement, ce principe-là, on peut pas l'utiliser en recrutement parce qu'on recrute pas toutes les semaines. Sauf comme toi, c'est notre métier. Mmh. Et là, effectivement, un recruteur professionnel, il va devenir très très bon. Mais un manager, on va dire que s'il espère devenir bon à force du nombre d'heures qu'il va passer dans ses recrutements, bah, il va dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, surtout de l'entreprise, avant de devenir bon. Donc la première raison, c'est celle-là, c'est qu'on le fait pas souvent. Et des choses qu'on fait pas souvent, bah, il y a peu de chances, qu'on soit efficace dans ces choses-là. La deuxième raison, c'est qu'il y a plein d'idées, je vais dire pas louches, mais un peu étranges, qui circulent sur le recrutement. Il y a plein de méthodes qui existent. D'ailleurs, on en avait parlé dans un podcast qu'on a fait il y a pas très longtemps avec Olivier Siboni, qui a sorti un livre que je vous conseille, qui s'appelle Vous allez redécouvrir le management. Et il y a un des sujets, il y a un des chapitres dans ce livre justement sur le recrutement, et il dit vraiment, s'il y a vraiment une approche qui est très peu scientifique et qui est délaissée par les entreprises au niveau scientifique, c'est bien le recrutement. Et en fait, c'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'une entreprise, elle va être extrêmement vigilante, extrêmement rationnelle sur ses investissements, par exemple quand elle va acheter une machine, quand elle va acheter un logiciel, quand elle va acquérir une autre entreprise, hein, on fait des due diligence, il y a plein d'étapes à passer. Par contre, bizarrement, quand il s'agit de recruter, tout d'un coup, on va plus du tout être dans le domaine rationnel. On va être dans le domaine où on a plein de fausses croyances. On va essayer une méthode qu'on a lue dans un magazine, ou bien on va avoir une fois une méthode pour une personne, puis une autre pour une autre personne, ou bien on va recruter au feeling, etc., etc. Donc, la deuxième raison pour laquelle c'est le moins bien réussi, c'est qu'il n'y a pas d'approche, en général, très rationnelle et, je dirais, scientifique sur le recrutement. Et puis, il y a une troisième raison. C'est qu'en général, quand on recrute, on a beaucoup de pression. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, un trou à combler. Il y a quelqu'un qui est parti, il faut absolument recruter. Donc on va essayer de recruter le plus vite possible. En plus, on a la pression de nos équipes, parce qu'elles attendent la nouvelle personne. Et puis, on va détailler ça plus loin. Je le détaillerai après, c'est une quatrième raison que je ne vais pas évoquer maintenant. On a aussi un biais positif qui va faire qu'on va essayer absolument de trouver une personne, même quand ce n'est pas la bonne personne, on va essayer de la faire rentrer dans des cases où de toute façon elle ne peut pas rentrer. Mais je dirais que les trois raisons principales, c'est on ne le fait pas souvent, il y a plein de méthodes, donc on ne sait pas laquelle prendre, et souvent on ne prend pas la bonne. Et enfin, c'est souvent une période de pression assez forte quand on doit faire un recrutement. Et ça, c'est vraiment la bonne recette pour se planter.
Et du coup, justement, comment faire pour ne pas se planter ? Quelle est l'approche à adopter ?
Alors, la première approche que je déconseille absolument, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est de dire, t'en fais et t'en refais, et tu vas apprendre de tes erreurs. Mais le problème, c'est que comme une erreur de recrutement, c'est quasiment la dépense la négative la plus importante que tu puisses faire dans ton entreprise, c'est vraiment pas la bonne méthode, c'est celle qui va te prendre le plus de temps, qui va te coûter le plus cher, et en plus, ça va être dur d'apprendre, parce que comme tu vas essayer à chaque fois des choses différentes, tu pourras pas trop comparer les choses entre elles. Moi, malheureusement, en tant que chef d'entreprise, qui trouvait pas vraiment de méthode, c'est un peu la méthode que j'ai utilisée. C'est-à-dire que moi, de mon côté, ça fait maintenant une vingtaine d'années que régulièrement je fais des recrutements pour mon entreprise. Bon, je me plante moins souvent qu'avant. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts avec cette non-méthode que j'avais. La deuxième chose qu'on se dit aussi, c'est puisque il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, comme toi, on n'a qu'à rien faire soi-même, et je dirais tout sous-traiter, c'est-à-dire dire moi je veux une personne comme ça, comme ça, comme ça, et puis laisser faire le cabinet, et puis le cabinet va mieux savoir que nous comment faire. Mais ça, il y a deux problèmes derrière. Il y a un premier problème, c'est qu'on passe complètement à côté du levier managérial, parce que moi, ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant dans le processus de recrutement, c'est de faire participer mes équipes, voire de définir le poste avec mes équipes, etc. Et ça, c'est un levier managérial énorme, à la fois pour sélectionner et pas se tromper, mais aussi pour fédérer nos collaborateurs. Donc si tu sous-traites tout, t'as pas ça. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il faut être réaliste. Le cabinet de recrutement, il va peut-être réussir à trouver des profils qui correspondent sur le papier, mais il n'y a que toi qui as une connaissance profonde du poste que tu cherches à pourvoir. Et donc, tout sous-traiter, ça comporte quand même un risque qui est énorme. C'est que tu ne te sois pas compris complètement avec le cabinet qui va s'occuper du recrutement. Mmh. Donc, pour moi, la bonne méthode, elle a quatre points qui sont primordiaux. Le premier point, peut-être le plus important, c'est que toi, en tant que manager qui doit faire un recrutement, tu aies le bon mindset. Donc, la première chose, c'est de comprendre comment fonctionne un recrutement et orienter ton esprit pour adhérer aux techniques qu'on va proposer. La première chose, c'est le mindset. Et c'est, dans notre formation, on commence par là parce que c'est la chose la plus importante. Et on va en parler dans une des parties de ce podcast. On va voir que c'est le mindset du recruteur, il est assez différent du mindset du manager. Le deuxième élément vachement important, c'est d'avoir le bon partenaire. J'en parlais juste avant. Mais si tu te trompes de partenaire, bah, ça va être compliqué puisque c'est à lui que tu vas confier le travail en amont des entretiens. Et puis, avoir le bon partenaire, ça veut dire aussi savoir négocier avec tes partenaires recruteurs. Moi, j'ai appris ça un peu sur le tas. Et voilà, en discutant ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Ensuite, il faut qu'on ait le bon processus, c'est-à-dire qu'un recrutement, ça a un début et une fin, mais on va voir que le début, il est beaucoup plus en amont que la recherche des CV, par exemple. Ça va vraiment démarrer par ton besoin dans l'entreprise, et souvent, on fait plein d'erreurs déjà à ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, on essaye de recruter exactement la personne qui a quitté l'entreprise. Ou bien on essaye de recruter exactement le profil de poste qu'on a là dans la fiche de poste. Ou bien on n'a pas trop d'idées et du coup on recrute un peu quelqu'un et finalement on se rend compte que c'était pas la bonne personne. Donc il y a vraiment un processus pas à pas. Il démarre très en amont et puis il va jusqu'au bout qui est l'intégration du candidat dans l'entreprise. Et puis la dernière chose qui est hyper importante, une fois qu'on a le bon mindset, le bon partenaire et le bon processus, c'est avoir les bons comportements. C'est quoi les bons comportements? Ça veut dire, une fois que j'ai compris le mindset, une fois qu'on m'a pré-sélectionné les bons candidats, bah, une fois que je suis devant le candidat, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que manager, très concrètement? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois formuler mes phrases, etc., etc. Et surtout, puisque je vais faire participer mes collaborateurs, comment je fais pour que eux aussi, ils aient le même type de comportement que moi? C'est-à-dire qu'on ne soit pas dissonant entre nous. Et on va voir que cette partie-là, qui est les bons comportements, elle est extrêmement importante parce qu'elle va tout conditionner jusqu'au bout, et y compris l'entretien de débriefing, c'est-à-dire le moment où tu rencontres tes collaborateurs, puis on discute, et puis le moment où toi, tu vas décider si tu embauches la personne ou pas. Donc, pour moi, voilà, il y a quatre vraiment pilier, on va dire, pour un bon recrutement, c'est le bon mindset, le bon partenaire, le bon processus et les bons comportements.
Il y a une notion que tu viens d'aborder également à l'instant qui m'a beaucoup plu lorsqu'on a échangé ensemble, quand on a créé la formation, c'est le fait que le recrutement, c'est un acte de management à part entière. Est-ce que tu peux développer un peu cette partie-là qui est très intéressante et qui va intéresser, je pense, ton audience?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un petit peu ce que j'avais commencé à expliquer là, quand j'ai parlé du processus. C'est qu'en réalité, un processus de recrutement, ça démarre pas au moment où, par exemple, on sélectionne les CV, ou au moment où le candidat est devant nous. Ça démarre beaucoup plus tôt. Et pour moi, en fait, il y a cinq grandes étapes dans un recrutement. En fait, un recrutement, on pourrait dire, c'est un projet. Un petit peu comme un chef de projet, bah, le jour où tu dois faire un recrutement, tu deviens le chef de projet du recrutement. Et donc, tu vas avoir des étapes. La première étape, il y en a cinq, donc la première, c'est avoir une préparation qui soit impliquante. Après, je vais expliquer ce que ça veut dire. La deuxième étape, c'est l'accompagnement. La troisième étape, c'est le débriefing. La quatrième étape, c'est la décision. Et la cinquième étape, c'est l'intégration. Là, je parle des étapes managériales. Hein. Je ne parle pas de la relation avec l'agence, de la relation avec les candidats. C'est pour expliquer en termes de management ce que ça peut t'apporter avec ton équipe existante. Parce que souvent, on insiste beaucoup quand on parle de recrutement sur deux aspects. Le premier, c'est la sélection. Et le deuxième, c'est l'intégration. Et c'est des aspects qui sont importants. Par contre, on va voir que ces aspects, ils ne sont pas suffisants. Donc, la première étape, c'est la préparation impliquante. En fait, un recrutement, avant d'être un recrutement, c'est une occasion en or qui arrive très rarement dans la vie d'une équipe, j'ai dit que c'était rare les recrutements, de rebrasser les cartes et en réalité de complètement redéfinir ton équipe. C'est complètement dommage quand par exemple tu as un départ ou par exemple tu as une surcharge de travail ou bien le besoin d'une nouvelle compétence. C'est complètement dommage de ne pas te mettre avec ton équipe et au lieu de dire « Tiens, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on recrute ?» de refaire le bilan de toutes les compétences qui existent dans l'équipe, qu'elles soient des compétences aujourd'hui utilisées ou qu'elles soient des compétences potentielles. C'est-à-dire que la question à se poser, la première question à se poser, avant même de faire la création de poste, c'est de faire l'état des lieux des compétences de ton équipe. Et quand je dis les compétences de ton équipe, je répète à la fois les compétences qui sont utilisées maintenant et aussi les compétences potentielles, c'est-à-dire celles qui pourraient être développées par ton équipe. Parce qu'on va voir que le fait d'envisager quelqu'un, ça permet aussi, c'est-à-dire quelqu'un de nouveau dans l'équipe, ça permet aussi de changer les personnes qui sont dans l'équipe, et ça peut être une opportunité de transformation des personnes. Donc, quand tu commences par ça, tu envoies un message à tes collaborateurs qui est la solution, déjà, elle est chez vous. C'est-à-dire que, moi, je vais citer un exemple que j'ai eu récemment. Je sais que j'ai quelqu'un qui va quitter mon équipe. Plutôt que de dire, on va recruter le même profil. D'ailleurs, c'était impossible parce que c'était un profil très complexe. On en a déjà parlé ensemble. Eh bien, j'ai dit non. Est-ce que dans l'équipe, il n'y a pas des gens qui seraient intéressés par récupérer une partie des attributions de cette personne ? Et est-ce que, du coup, elles vont devoir lâcher d'autres choses ? Et est-ce que du coup, la personne qu'on va recruter, elle va pas plutôt récupérer des choses que les autres auront lâchées ? Tu vois, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'idée, c'est de voir ton équipe comme un ensemble de compétences possibles ou pas, et à partir de ça, à partir des manques qu'il y aura une fois que tu auras fait ce bilan, de définir le profil que tu vas intégrer. Donc, première phase dans la préparation impliquante, c'est rebrasser les cartes de ton équipe. T'as pas beaucoup d'occasions de le faire et il faut absolument démarrer par ça. Ensuite, démarrer tout de suite de cette manière-là, même si à la fin c'est pour dire non, on va recruter exactement le même type de profil, t'auras déjà impliqué les personnes, tu leur as déjà demandé leur avis, tu leur auras proposé probablement des promotions, des mouvements dans l'équipe, etc. Mais tu auras aussi donc démarré leur intégration dans le processus de recrutement. Donc première étape, préparation impliquante. La deuxième étape, qui est importante, et en fait c'est pas une étape, c'est quelque chose qui va durer pendant tout le processus, c'est ce que j'appelle l'accompagnement. C'est-à-dire que tu vas faire participer tes collaborateurs au choix, autant au début qu'à la fin. Et en faisant ça, tu vas leur confier des responsabilités. Alors, à la fin, je dévoile pas un secret, c'est toi qui vas décider. C'est-à-dire qu'il est même possible de recruter quelqu'un alors que personne dans l'équipe n'est d'accord. Je le conseille pas, mais ça pourrait exister. Tu vas pas, c'est pas eux qui vont choisir, mais ils vont participer à tout le processus. Et c'est extrêmement important. Première chose, dans l'accompagnement qui est intéressante. La deuxième chose dans l'accompagnement qui est intéressante, c'est qu'ils vont apprendre énormément de choses. Déjà, ils vont apprendre à recruter. Parce qu'en fait, tu vas les faire participer aux entretiens de recrutement. Donc tu vas leur apprendre des choses au niveau comportemental. Tout ce que toi, tu auras appris en tant que manager, eux aussi vont l'apprendre, et donc ça va les faire grandir. Ils vont acquérir une nouvelle compétence. Et on va voir qu'en fait, quand on acquiert des compétences en recrutement, on acquiert aussi des compétences en comportemental, en négociation, etc. C'est-à-dire des compétences qui vont aussi nous être utiles dans d'autres domaines de notre métier, qui sont en réalité des soft skills. Et donc, dans la deuxième phase le deuxième pilier de cette intégration, de ce recrutement au niveau managérial, ça va être de coacher tes collaborateurs et donc de les faire grandir. Donc c'est extrêmement important. La troisième chose, c'est le débriefing. Tu vas les faire participer, donc il y aura une réunion spécifique, et tu vas les faire participer d'une manière qui implique, c'est pas eux qui vont décider, mais ils vont te dire quelle aurait été leur décision. Donc, tu vas leur apprendre, à partir de critères qu'ils auront réunis pendant les entretiens, à te proposer une solution. Donc ça, ça va te servir en management aussi. Et puis évidemment, après, tu vas décider. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai une formation là-dessus. Et puis, la cinquième chose, ce sera l'intégration. Et ça, l'intégration, en réalité, elle va être d'autant plus simple que toutes les étapes d'avant, ça aura été comme une pré-intégration pour le candidat. C'est-à-dire que le candidat, il aura été défini sur le papier par l'équipe. Ensuite, il aura été sélectionné par l'équipe et ça aura été dur parce que on va voir que le mindset, on va en parler juste après, il est particulier et donc il est peut-être parfois un peu difficile à accepter par le candidat. Mais finalement, il va être retenu, donc retenu à la fois par son futur chef et par ses futurs collègues. Et à partir de ce moment-là, bah, l'intégration elle sera beaucoup plus simple. Donc et c'est ça que je veux dire quand je dis c'est une démarche managériale complète. On fait du coaching, on apprend des compétences, on fait des soft skills, on apprend à faire parler la personne, on apprend la négociation, etc., etc., dans le processus.
Et justement, tu viens de commencer un peu à l'aborder, tu dis que recruter, c'est un acte de management à part entière, mais que cet acte demande de ne pas penser comme un manager normal, on va dire.
Exactement.
Est-ce que tu peux préciser ça ? Parce que c'est un peu ambivalent comme propos au final.
Ouais. Et c'est pas évident à comprendre, mais c'est absolument primordial. Moi, c'est ce que j'ai mis en premier quand j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le mindset. Donc, d'un côté, t'as le mindset du manager quotidien, et de l'autre côté, t'as le mindset du recruteur, qui est un manager, mais là, qui a mis sa casquette de recruteur. Et là, ce qui est très important à comprendre, c'est que les relations que toi tu vas avoir en tant que recruteur avec la personne qui sera devant toi, ça ne peut pas être les mêmes relations que tu as en tant que manager avec tes collaborateurs. Dans un cas, la personne qui est devant toi, elle ne fait pas partie de ton équipe, mais dans l'autre cas, les gens que tu manages font partie de ton équipe. Donc tu ne peux pas avoir le même mindset. Évidemment, après, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce candidat, il intègre l'équipe. Et là, tu seras manager avec lui. Mais là, t'es pas comme ça. Avant qu'il soit intégré, tu dois avoir un mindset qui est presque à l'opposé de celui que tu as avec ton équipe. Et le mindset, je vais te l'expliquer un peu brutalement, parce qu'on va pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, ton objectif pendant les entretiens que tu vas avoir avec ces candidats, ça va être de les exclure. Or, avec tes collaborateurs, c'est l'inverse que tu veux. Les collaborateurs qui sont chez toi, bon, sauf si vraiment il y a un problème qu'on ne peut pas résoudre, mais l'exclusion, c'est le dernier recours du manager. Alors que l'exclusion, c'est le premier objectif du recruteur. C'est un peu dur comme manière de le dire, mais c'est vraiment ça. Et là-dessus, il n'y a pas de compromis à faire. Quand tu es dans le processus de recrutement, tu cherches à exclure plutôt qu'à inclure. C'est-à-dire que c'est une sélection. Donc, il y aura beaucoup moins de gens retenus que de gens, éjectés. Vraiment, ça, il faut le comprendre. Le deuxième point important à comprendre, c'est qu'en tant que manager, ton esprit, il est entraîné à trouver des solutions. Ça, j'en parle souvent. On est formaté comme ça quand on est manager. Ça nous fait faire plein de choses extraordinaires, mais aussi ça nous fait faire plein d'erreurs. Donc, en tant que manager, ton esprit est entraîné à trouver des solutions. Et là, justement, tu as un problème. Il te manque une personne. Donc, automatiquement, ton mindset se met en mode résolution de problème. Et donc, comme tu es un manager, tu vas te dire « Je dois boucher ce trou le plus vite possible. » Et donc, le risque, c'est que tu risques de recruter une mauvaise personne pour résoudre ton problème. Et si tu fais ça, tu vas entraîner un problème bien plus grave. C'est ce que j'appelais l'enfer sur Terre il y a 5 minutes. C'est le mauvais recrutement. Donc, deuxième point important à comprendre, en tant que manager, malheureusement, pour le recrutement, ton esprit est entraîné à trouver des solutions et donc il va te faire faire des bêtises. Mais j'ai un troisième point qui va encore accentuer ce problème, c'est que ton candidat, inconsciemment ou pas, il va encore plus renforcer ce problème. Il va renforcer le fait qu'il peut t'aider à résoudre le problème. Parce qu'en fait, lui aussi, il veut faire cesser une situation délicate. Sa situation délicate à lui, c'est être sans emploi ou être dans un job qui lui plaît pas. Donc, quand vous allez vous retrouver dans la même pièce, vous allez croire tous les deux que vous avez le même objectif. C'est l'objectif qui rentre dans l'entreprise. C'est-à-dire que si tu gardes ton mindset de manager qui est de collaborer, bah quand il va rentrer dans la pièce, tu vas te dire bah en fait, on va pouvoir collaborer ensemble pour voir comment résoudre notre problème commun qui est le recrutement. C'est ce que tu ferais avec un collaborateur que tu aurais déjà dans ton équipe. Mais le problème, c'est que c'est totalement une vision biaisée des choses. En fait, vous ne collaborez pas ensemble, vous n'êtes pas dans la même équipe, vous n'avez pas le même objectif. Ça, c'est une construction mentale. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est sûrement pas la bonne personne et toi, tu n'es sûrement pas la bonne boîte. Puisque en général, il y a plus de gens qui vont échouer à l'entretien de recrutement que de gens qui vont réussir.
Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment fait-on ?
Bah oui, parce que c'est compliqué. Et en fait, il va falloir faire deux choses. En fait, il va falloir faire une chose principale. La première chose, c'est de changer ton mindset. Enfin, plutôt, ce qu'on va faire, c'est changer de mindset. Et en fait, on va changer de mindset et on va compartimenter le recrutement. C'est-à-dire qu'on va se créer deux structures mentales, une pour sélectionner les candidats et une pour vendre le poste. Et on ne va jamais faire les deux en même temps. C'est ça, compartimenter. Compartimenter, le principe, hein, j'en ai souvent parlé sur le podcast, c'est de dire, il y a un moment pour faire quelque chose, et tu as un état d'esprit pour faire ce quelque chose, puis un autre moment pour faire autre chose, et là, tu as un autre état d'esprit. Et ça, je ne l'ai jamais entendu dans les méthodes de recrutement, et pourtant, c'est primordial. C'est-à-dire que tu vas te conditionner sur le premier mindset, celui de la sélection. Et là, la clé, c'est de se conditionner pour être une machine à dire non, de se conditionner à refuser le candidat. Plutôt que de trouver chez lui ce qui convient au poste et donc aller dans son sens en disant « ah oui, oui, oui », et donc avoir ce qu'on appelle un biais de confirmation positif, tu vas faire l'inverse. Tu vas essayer de trouver toutes les raisons pour ne pas recruter le candidat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une asymétrie des risques. C'est-à-dire, je le détaille dans la formation, mais en gros, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que c'est toujours moins grave de rater un bon candidat que de faire rentrer un mauvais candidat. S'il y a un truc à retenir, c'est cette phrase que je suis en train de dire maintenant. C'est toujours moins grave de rater un bon que de faire rentrer un mauvais. À partir de ce moment-là, où tu es convaincu de la phrase que je viens de dire, tu as tout intérêt à te conditionner pendant la première partie, la plus longue, quasiment tout le processus du recrutement, tu dois te conditionner vers le rejet du candidat. C'est-à-dire que plutôt que chercher pourquoi il va réussir dans le poste, toujours chercher pourquoi il va échouer dans le poste. Et tu lui rends service en même temps. Donc, il ne faut pas avoir de scrupules là-dessus. C'est vraiment ce qu'il faut chercher quand on est dans le mindset numéro 1, celui du recruteur. Une fois que tu as fait ça, tu vas recompartimenter, c'est-à-dire que tu vas changer de casquette et tu vas devenir vendeur. C'est-à-dire que si le gars a passé, les tests, bah maintenant, tu vas lui vendre le poste, puisque maintenant, tu es convaincu que c'est la bonne personne et que tu es la bonne boîte pour lui. Donc maintenant, tu vas complètement switcher de mindset et tu vas être le meilleur vendeur possible pour valoriser l'offre que tu vas lui faire. Et là, je conseille d'ailleurs d'utiliser le disque. Le disque, je ne conseille pas de l'utiliser dans la partie « comment exclure le candidat ?» Je conseille de l'utiliser dans la partie « comment vendre le poste ?» Et là, c'est carrément une autre démarche. C'est-à-dire que tu es complètement à l'opposé. Tu es maintenant dans une démarche qui ressemble beaucoup plus d'ailleurs à la démarche d'un manager, puisqu'en fait, maintenant, ce que tu veux, c'est intégrer le candidat. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a deux moments ou plutôt deux mindsets au cours d'un recrutement et que le meilleur moyen de se planter, c'est d'essayer d'avoir les deux mindsets en même temps.
Et c'est donc véritablement en compartimentant ces mindsets-là qu'on arrive à recruter de façon plus rationnelle.
Tout à fait. Et c'est pas hyper compliqué si on a les bons outils.
Et donc, ce que tu nous dis dans les grandes lignes, c'est qu'on peut avoir une approche rationnelle du recrutement.
Oui, Absolument. Je dirais même qu'on doit avoir une approche rationnelle du recrutement. J'en ai parlé en vitesse tout à l'heure en citant Olivier Ciboni. En fait, il nous dit qu'un des domaines le pire du management, c'est le recrutement. En termes de rationalité, je sais pas si on peut le dire, ou ce rationalisme, je sais pas comment on dit. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on trouve de tout. Et surtout, on trouve beaucoup de méthodes qui sont absolument pas prouvées par la science, qui sont absolument pas rationnelles. Et à un moment, on pourrait même être tenté de se dire, bah, autant recruter au feeling, puisqu'on a 50% de chances de se planter. Bon, c'est pas acceptable comme approche. Je veux dire, quand t'as un enjeu de ce niveau-là, en termes de coûts financiers et autres, tu peux pas te dire, j'ai le droit de me planter une fois sur deux. Faut que t'aies plutôt un ratio à 80-90%. Donc, qu'est-ce que ce serait la méthode absolument sans risque, c'est-à-dire le truc où on peut jamais se planter? Bah, ce serait d'embaucher la personne, et puis de l'avoir pendant un an, et puis au bout d'un an, si ça convient, elle est sélectionnée. Ça, ce serait la méthode super scientifique, c'est-à-dire que là, t'es sûr, si pendant un an, enfin normalement, la personne convient, bon, t'as 100% de chance qu'elle va continuer à convenir. Le problème, c'est que ça va coûter un peu cher. Si tu as 25 personnes et que tu les testes pendant un an avant de choisir laquelle tu vas prendre, ça va coûter très très cher. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme méthode, je dirais, peut-être pas aussi fiable que celle-là, mais qui soit sur les mêmes bases? Bah, ça va être plutôt de regarder dans le futur, de regarder dans le passé de la personne. Et la question, c'est... bah, si cette personne a déjà réussi dans le poste que je propose, il y a quand même des chances considérables qu'elle continue de réussir dans ce poste chez moi. T'es d'accord? C'est logique.
Je suis d'accord.
Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Le problème qu'on va identifier très très vite, c'est que aucun poste ne se ressemble point pour point. Aucune entreprise, aucune situation, aucune équipe ne se ressemble. C'est-à-dire que si tu crois que, par exemple, sur un poste d'acheteur, tu peux comparer les postes entre eux, tu te trompes, parce que le poste d'acheteur, il peut avoir de multiples comportements, en fait, qui lui sont rattachés. Ça peut être de la négo, ça peut être de l'approvisionnement, ça peut être le fait de parler une langue, de savoir faire des négociations, etc., etc. Et ça, c'est vrai pour tous les postes. Donc, on peut regarder dans le passé de la personne, mais c'est pas suffisant, parce qu'en fait, on n'a aucune garantie que, déjà, que ce qu'elle écrit dans son CV est juste, mais surtout, on n'a aucune garantie qu'on parle de la même chose. Et donc, il va falloir trouver un proxy, une manière, de simuler ça. Et la seule manière qu'on a trouvée, et je pense que là, vraiment, tous les deux, ce qui est marrant, c'est qu'on est tombés d'accord tous les deux avec chacun notre expérience, c'est que la seule manière... Et c'est d'ailleurs aussi l'avis de grandes boîtes comme Google, etc. C'est l'avis d'Olivier Ciboni, si j'ai bien compris. C'est la méthode comportementale. C'est-à-dire de trouver dans le passé professionnel de la personne des situations qui se rapprochent le plus du poste qu'on cherche à pourvoir. Et là, c'est ce qui fonctionne le mieux. Toutes catégories confondues, c'est confirmé par les études scientifiques, c'est la meilleure manière de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le poste que tu as à pourvoir, tu dois l'éclater en une multitude de comportements qui correspondent au poste, et tu dois fouiller dans le passé ou dans le CV de la personne que tu as en face de toi pour retrouver le même genre de situation et vérifier que sa manière de gérer ces situations est celle qui te convient pour qu'elle puisse occuper ce poste. Donc ça élimine quasiment toutes les autres méthodes. C'est-à-dire que ça élimine par exemple les questions qui sont qu'est-ce que vous feriez si il se passait ça? Parce que ça, c'est l'imaginaire, c'est juste quelque chose qui ne s'est pas produit. Toi, ce que tu veux, c'est ce qui s'est produit dans le passé du collaborateur et qui se rapproche le plus possible de ce qui va se produire dans son futur s'il est dans ton entreprise. Ça va être aussi tout ce qui est question genre c'est quoi vos qualités, vos défauts, etc. Ça va être, enfin, du coup, il te reste plus qu'une seule chose à faire, c'est poser des questions qu'on appelle des questions comportementales. Et ça tombe bien, parce que l'approche comportementale, c'est ce fondement d'outils du manager. C'est par exemple sur ça qu'on a fondé le 1-1, le feedback, le disque. En fait, tous les outils du manager sont fondés sur l'approche comportementale. Et ce qui est amusant, je le répète, c'est que moi, ça m'a tout de suite parlé, cette approche, parce que je la pratique en tant que manager, et même je l'enseigne. Et toi, ça t'a tout de suite parlé aussi, parce que tu t'es bien rendu compte, dans ton vécu de recruteur, que c'était quasiment la seule chose qui fonctionnait avec des bons résultats.
Mmh. Exactement, c'est vraiment la seule méthode aujourd'hui qui fonctionne, pas à 100%, car ça reste de l'humain, mais qui limite le maximum de risques dans la prise de décision finale.
Tout à fait. Et ça doit être le squelette, ça doit être la structure, ça doit être vraiment ce qui guide tout l'entretien. Après, évidemment, il peut y avoir des choses plus, je dirais moins scientifiques, mais le truc central, c'est vraiment ces questions comportementales. C'est-à-dire essayer de trouver dans l'histoire de la personne, dans son historique, des situations où elle a prouvé qu'elle avait les bons comportements par rapport à ce que tu attends dans le poste qu'elle va occuper. Voilà, ça clôt, je dirais, les trois premières parties qui étaient vraiment les parties axées sur le management. Et là, on va entrer dans la quatrième partie qui est la partie recruteur-prestataire. Et donc, dans cette partie, on va inverser les rôles, si tu es d'accord.
Ça me va très bien.
Je trouve que c'est intéressant qu'on échange nos casquettes. Et maintenant, moi, je vais t'interroger sur les parties du recrutement qui font pas partie du management, mais qui sont spécifiques aux recruteurs. Donc, peut-être que pour commencer, tu peux nous dire ce que c'est qu'un bon recruteur, c'est-à-dire un bon prestataire par rapport à un mauvais.
D'accord. Alors, la réponse, on va dire un peu type, c'est un bon recruteur, tu lui confies un poste, il recrute.
Ouais.
Un mauvais recruteur, tu lui confies un poste, il recrute, mais c'est un mauvais recruteur. Petit clin d'œil aux inconnus. Non, plus sérieusement, un bon recruteur, c'est quoi ? C'est un recruteur qui sait s'adapter tout simplement à ta façon de fonctionner. C'est un recruteur qui va savoir réellement se calquer sur tes initiatives, sur tes idées, qui va réellement comprendre l'enjeu du poste, de l'entreprise, avoir une vision globale réellement de la stratégie que tu veux adopter au travers du recrutement. C'est pour ça qu'il est important, en fait, non pas de choisir des recruteurs, mais réellement de créer des partenariats avec des cabinets ou avec des prestataires. Plus tu auras un partenariat qui va être ancré, qui va être sur le long terme, plus la personne va connaître réellement tes enjeux et plus elle saura même de t'aider précisément. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal, on va dire. Et après, forcément, il y a aussi des critères universels qui distinguent les bons recruteurs des mauvais recruteurs. La première chose qui me vient à l'esprit, je vais donner grosso modo deux critères sur lesquels tes auditeurs peuvent se baser pour un peu identifier les bons comportements des mauvais comportements chez les recruteurs. La première chose, ce sont les annonces. Ça peut paraître bête à dire, mais la première chose que doit faire un manager qui cherche à recruter et à déléguer ce recrutement, c'est de vérifier la qualité des annonces des recruteurs qu'il souhaite sélectionner. C'est bête à dire, mais l'annonce, c'est la porte d'entrée des candidats. Et donc, une annonce qui est mal rédigée, donc soit où il manque des informations importantes, soit où sont présentes des fautes d'orthographe, soit où sont présents des critères discriminatoires, tout ça, c'est un no-go. Directement, si un prestataire présente des annonces non qualitatives qu'elle met sur le marché de l'emploi, il faut tout de suite fuir ce prestataire éventuel-là. Ça, c'est la première chose. D'accord. Ensuite, la deuxième chose, il faut tout simplement poser au prestataire la question suivante. Il faut lui demander quel job board il utilise. Alors, un job board, c'est quoi ? Tout le monde ne connaît pas ce terme-là. Ce sont les outils dont se servent les cabinets de recrutement pour mettre des annonces en ligne et pour trouver des candidats qui sont en veille sur le marché. Et plus le prestataire va utiliser des job boards, on va dire, spécifiques, des job boards particuliers et précis par rapport à tes recherches, plus il sera même trouver des candidats réellement qui vont répondre à ton besoin. Donc ça, c'est les deux critères, on va dire, que tout le monde peut regarder facilement avec une simple question ou une simple recherche sur Internet.
Ok, d'accord. Ok, donc déjà, il faut presque faire, passer un entretien de recrutement au recruteur.
C'est ce qu'on préconise dans notre méthode, dans tous les cas, c'est vraiment faire passer un processus de recrutement au recruteur. C'est sûr, il y a 5 étapes à respecter, on ne va pas les détailler maintenant, ça serait un peu trop long, mais 5 étapes qui permettent de vérifier précisément si le recruteur qu'on va choisir est qualifié ou non pour nous accompagner sur le recrutement.
Ok.
Ça me paraît essentiel aujourd'hui.
Ok. Après, il y a un aspect qui n'est pas évident, je trouve, c'est la négociation avec le recruteur. Parce que on va devoir évidemment à un moment parler prix, conditions, etc. Mais en même temps, c'est un partenaire et on n'est pas forcément à l'aise là-dedans.
C'est vrai que c'est compliqué. J'ai souvent été confronté en tant que prestataire à cette tension lorsque le prix est évoqué. C'est 18%. Est-ce qu'on peut baisser à 15, à 16? À chaque fois, c'est un peu conflictuel comme situation. Et en fait, le souci des managers ou des personnes qui cherchent à faire appel à un prestataire, c'est qu'elles n'abordent pas spécialement le problème de la bonne façon. Il ne faut pas chercher à demander une réduction de prix sans proposer autre chose en retour. Il faut réellement proposer une réduction de prix dans un échange gagnant-gagnant. Si je demande une réduction de prix, c'est que moi, j'apporte également des choses qui vont faciliter la vie du prestataire. Mmh. Et typiquement, c'est ce que toi, tu fais aujourd'hui. C'est ce qu'on a aussi formalisé dans la méthode de recrutement que l'on préconise. C'est le fait de donner au prestataire déjà tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse comprendre précisément l'enjeu du poste à pourvoir et toutes les compétences attendues. Ça, c'est super important. Car en tant que recruteur, je ne calcule même pas le nombre de fois où des recruteurs, des managers, m'ont envoyé un simple petit email avec quelques missions, quelques traits de caractère, un peu vagues, un peu flous, en me demandant de trouver la bonne personne à partir de ça. Mmh. Et à chaque fois, c'est voué à l'échec. Faut dire ce qui est, moins le poste sera décrit, plus il y aura de risques pour le recruteur de trouver la mauvaise personne. Et donc toi, en tant que manager, si tu proposes à l'inverse un cahier des charges très précis, très détaillé, tu le présentes directement au recruteur et là tu peux négocier car tu as pré-mâché son travail en amont.
Oui, voilà en plus, forcément sa valeur ajoutée à lui, parce que c'est vraiment toi qui sais exactement qui t'as envie de recruter. Lui, il est extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux pas tout sous-traiter.
C'est toi qui sais d'une part, et possible d'autre part, ça évite les allers-retours par la suite, à se passer des coups de fil, à s'envoyer des emails, à faire des visites de poste en plus. Au moins, d'entrée de jeu, tout est acté, tout est clair, tout est précis, on sait sur quoi on s'engage et on y va. Et là, on peut négocier plus facilement.
Et c'est win-win parce qu'en fait, t'as fourni du travail que lui n'a pas à fournir et donc ça peut faire que le recrutement finalement te revienne moins cher en coût externe.
C'est ça. Et lui, il y a moins d'erreurs, il y a moins de temps perdu pour le recruteur aussi. C'est 100% gagnant-gagnant comme démarche.
Ok, super. Ce que j'ai trouvé aussi vraiment intéressant dans notre collaboration, c'est un autre aspect aussi, il y a celui-là qui est vraiment, vraiment sympa, c'est toutes tes méthodes de recruteur parce qu'en fait, ça, c'est des trucs qui sont pas connus des managers. C'est des trucs que tu as pu lire à droite à gauche, mais j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'est que toi, t'as, un petit peu comme moi je l'ai fait dans ma partie management, bah, toi, tu as réuni des espèces de bonnes pratiques ou plutôt des bons comportements qu'il faut avoir quand on a, par exemple, quand on a le candidat devant nous.
C'est vrai qu'il y a plusieurs outils que j'ai pu élaborer au fur et à mesure de mes entretiens et de mes échecs, surtout. C'est grâce à ça que j'ai appris. Notamment la méthode SCORE, dont j'ai déjà parlé dans le podcast précédent qu'on a fait ensemble, qui est une méthode qui permet tout simplement de vérifier la véracité d'une réponse apportée par un candidat. Également, on a parlé ensemble dans la formation de la grille AME, qui est une grille en fait qui permet de factualiser et de rendre réellement, précise l'évaluation d'un candidat sans se faire biaiser par les différents biais cognitifs que l'on peut rencontrer et dont tu as déjà parlé. Et aussi, certaines questions toutes bêtes, qui permettent facilement de relancer le candidat. J'en ai un panel assez large, dont les questions miroirs, qui sont vraiment mes questions préférées. C'est une question toute bête, en fait, simplement, qui consiste à répéter la fin de la phrase d'un candidat pour l'inciter à développer ses propos. Ouais. Typiquement, face à toi, tu as un candidat qui te dit « grâce à cette action-là, j'ai développé mon chiffre d'affaires. Toi, tu veux avoir plus d'informations. Tu répètes tout simplement « vous avez réussi à développer votre chiffre d'affaires ». Là, tu laisses un silence. Et forcément, le candidat va vouloir compléter ce silence-là en complétant sa réponse. Donc ça, c'est une super technique toute simple à mettre en place pour questionner les candidats.
Moi, je confirme, ça marche super bien. J'ai essayé. J'ai d'ailleurs essayé dans d'autres contextes que celui de recrutement et ça marche très très bien. Mais dans le contexte du recrutement, c'est vraiment bien parce que en plus, ça nous évite de projeter sur le candidat notre désir qu'il réussisse à l'entretien. Je rappelle le mindset. Vous allez avoir beaucoup de mal à pas, sans le vouloir, indiquer dans quelle direction vous voulez que le candidat aille.
C'est vrai, comme tu dis, les recruteurs cherchent à trouver des solutions à tout prix. Ils sont quasiment formatés pour ça. Le cerveau pense solution, solution, solution. Et le problème avec ce biais-là, parce que c'est encore un biais, encore une fois, c'est le fait qu'on va chercher à faire dire des choses au candidat que nous, on veut entendre, tout simplement. Et ça s'appelle des questions orientées. Et énormément de recruteurs, même des recruteurs un peu aguerris, en posent. Donc il faut vraiment se détacher de ça. Une question orientée, c'est quoi ? Par exemple, on dit au candidat, si j'ai bien compris, vous avez fait preuve d'autonomie durant votre poste.
Ouais.
Ça, c'est une question orientée. Le candidat ne va jamais dire non. Il ne va pas dire non, j'étais complètement dépendant de mon hiérarchique. Il va dire oui, forcément, j'ai été autonome. Vous cherchez à évaluer l'autonomie, à vérifier que la personne a de l'autonomie, et vous lui demandez de dire oui à une question que vous lui posez. Ça, voilà, c'est un gros piège dans lequel on tombe facilement. Très facilement.
Oui, oui, puis on tombe là aussi parce que quand on est en face de quelqu'un, on fait preuve d'empathie, on a envie qu'il réussisse, mais c'est une erreur. C'est une erreur. On rend service à personne quand on fait ça.
On est bienveillant envers la personne, oui.
Et c'est vrai que les questions miroirs, c'est tout bête, hein, mais une fois qu'on a appris ça, et comme dans le guide c'est écrit, etc., donc on a le réflexe de le faire, mais c'est incroyable, ça marche super bien, quoi. Alors après, il y a un autre aspect aussi, bon, qui est moins, j'irais moins rigolo, en tout cas pour moi, et que je connaissais pas du tout, en fait, c'est toutes les contraintes légales autour du recrutement. Et là, bon, c'est facile de faire des erreurs, quoi. On n'est pas bien informé.
Des erreurs qui peuvent engendrer des pénalités préjudiciables. Effectivement, il y a plusieurs erreurs que l'on peut faire. Déjà, je pense à la discrimination. La discrimination, c'est une erreur qu'on fait très facilement sans se rendre compte. Aujourd'hui, les critères discriminatoires sont très stricts et très précis. Typiquement, je vais prendre le cas de l'annonce d'emploi. Il faut savoir que sur une annonce d'emploi, sur mes ports de charges lourdes, c'est discriminatoire.
D'accord.
Voilà, ça c'est discriminatoire. Ah, ouais. Pour l'emploi, fait sauter l'annonce. Pourquoi ? Parce que ce terme-là induit directement que la personne ne peut pas exercer le métier si elle ne peut pas porter des charges lourdes. Donc c'est propre à la personne. C'est la personne qui fait défaut, tout simplement, au travers de ce terme-là. Donc il faut le formuler différemment. Il faut dire que le poste nécessite du port de charges lourdes.
Ouais.
C'est un petit détail qui se joue à pas grand chose, mais qui permet d'éviter de se faire sauter son annonce sur Pôle emploi. Je sais que beaucoup de managers mettent leurs annonces en ligne sur Pôle emploi, donc évitez de les faire sauter. Déjà que ça prend du temps à faire, donc évitez ça. Et ensuite, l'autre élément qui vous concerne potentiellement plus, vous les managers, ce sont les contrôles de référence. Il faut savoir que les contrôles de référence, c'est pas une action qui est anodine. On n'appelle pas un ancien employeur comme si de rien n'était. Il y a des contexte à respecter, il y a des règles à respecter, il y a un cadre à respecter. Il faut notamment faire signer une décharge au candidat pour s'assurer qu'il est bien d'accord, qu'il nous autorise bien à appeler son ancien employeur. Et ça, si on ne le fait pas, si le candidat porte plainte par la suite, il peut y avoir des pénalités financières au niveau de l'entreprise.
C'est pas la partie la plus rigolote, mais...
C'est peu connu, mais c'est important, effectivement. Après, on parle également de RGPD, de confidentialité. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et dont on parle dans la formation.
Après, il y a un autre point sur lequel on était d'accord, qui nous a paru à tous les deux ultra important. C'était celui de guider fortement nos collaborateurs pendant les entretiens. Moi, c'était clairement un point faible chez moi. C'est-à-dire que moi, je m'étais créé ma méthode, je faisais des questions comportementales, etc. Mais par contre, je donnais pas tellement d'instructions à mes collaborateurs. Et donc, en fait, ils faisaient un peu avec ce qu'ils avaient, les pauvres. Hein. Et puis, je me rendais compte à la réunion de débriefing qu'en fait, ils avaient fait un truc complètement, un petit peu comme ils le sentaient. Et finalement, en fait, ça facilitait pas du tout la décision. C'est-à-dire que moi j'avais ma méthode, eux ils en avaient pas ou ils en avaient une autre, et finalement la réunion à la fin, en fait, en réalité ce qui se passait, hein, pour être très clair, c'est que finalement je décidais selon moi l'impression que j'avais eue, parce que j'arrivais pas à exploiter leur avis à eux.
C'est vrai que je suis pas spécialement étonné par rapport à ça. Il faut apprendre plutôt aux collaborateurs à faire un entretien. Comme tu le dis, les managers ne sont pas déjà aguerris à en faire, ils n'ont pas l'habitude d'en faire, donc les collaborateurs, c'est encore pire. C'est tout nouveau pour eux, souvent les managers les projettent directement sur un recrutement, en leur disant, fais un entretien, c'est demain à 16h, tu le fais. Le collaborateur, il est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire, il navigue un peu à la vue, et forcément, il ne pose pas les questions qu'il devrait poser. Et à la fin, tu te retrouves toi, avec tes collaborateurs, chacun a une méthode différente, chacun a des techniques différentes, chacun n'a pas la même structure, et forcément, pour croiser les données, c'est impossible. C'est comme si tu demandais en fait à un professeur de mathématiques d'évaluer le niveau de ses élèves avec des contrôles différents. Ça n'a aucun sens. Donc forcément, à partir de là, il faut harmoniser les pratiques au sein de ton équipe. Je vous ai à chacun la même trame, les mêmes questions, la même structure, vous la suivez à la lettre, et à partir de là, vous pouvez réellement évaluer le candidat de la bonne façon et avec les mêmes informations, chacun de votre côté. Et donc ça sert précisément lors de la réunion de débriefing dont tu as déjà parlé. Et dans la méthode qu'on propose, toi et moi, on a fait un guide justement pour accompagner les managers à former efficacement leurs collaborateurs très rapidement. C'est un guide de bonne pratique, on peut dire ça comme ça, hein, qui prend forme d'une checklist avec toutes les étapes à respecter, les questions à poser, les comportements à avoir et le mindset à adopter. Comme ça, au moins, vous donnez ça à chacun de vos collaborateurs, ils le lisent et après, ils sont parés pour réellement appliquer vos méthodes et votre stratégie. Et vous, à la fin, vous allez pouvoir débriefer efficacement sur les candidats que vous avez reçus respectivement.
En fait, un truc qu'on n'a pas dit aussi, ça me revient maintenant en t'écoutant, c'est qu'il y a aussi un point sur lequel on est tombé tout de suite d'accord, c'est qu'on ne fait pas d'entretien en collectif. C'est-à-dire on se met pas tous à 5 devant le candidat à lui poser des questions, mais on fait de manière successive. C'est-à-dire que c'est des 1 à 1, pas dans le sens managérial du terme, mais quand même, chaque collaborateur qu'on va impliquer dans la démarche va faire passer un entretien de recrutement au même candidat et avec la même structure. C'est que comme ça qu'on arrive à avoir une vision du candidat complète, en fait, selon les critères de chacun, mais avec une méthode qui est commune. Et c'est vrai que ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Et sans déstabiliser le candidat aussi. Il y en a qui sont un peu plus timides que les autres, et quand tu as 3 personnes face à toi, c'est très compliqué. En plus, chacun veut tirer la couverture à soi dans un recrutement.
Ouais.
Donc, ou l'inverse, veut s'effacer par rapport aux autres.
Tout à fait. Tu peux tous les tempéraments et donc finalement. Et puis en plus, il s'en dégage rien de clair. C'est-à-dire que ce qu'on va demander à chacun des collaborateurs qui ont fait passer les entretiens en candidat, à la fin, c'est leur décision. C'est-à-dire qu'on va les mettre. Toi, tu le recruterais ? Oui, non. Or, quand on a vu un candidat en groupe, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de dégager une opinion commune. Et ça, on veut pas. En fait, on veut que chacun ait son opinion. On a une méthode pour ça, hein. Mais chacun a son opinion et chacun va devoir dire son opinion devant toi avant que tu prennes ta décision. Comme ça, tu auras beaucoup plus de critères pour prendre ta décision que si ça avait été une discussion informelle juste après l'entretien, en disant « Bon alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, il a l'air pas mal. Ouais, mais t'as vu, il y a ça. » Enfin, moi, j'ai fait ça des dizaines de fois. En fait, ça sert à rien. Alors que la méthode où chacun donne vraiment son opinion sans être influencé par les autres, ou un minimum, encore une fois, c'est beaucoup plus rationnel, cette manière-là de faire.
Et plus que son opinion, c'est un avis tranché que va donner la personne, c'est oui ou non. C'est pas peut-être, c'est oui ou c'est non. Point barre.
Tout à fait. Oui, non, et pourquoi ? Et là, on guide la personne et elle a des critères pour dire pourquoi, elle dit les points de vigilance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une méthode construite qui met toutes les chances de notre côté. Ok, bon, on en a dit déjà pas mal sur la chose. Peut-être que on peut conclure, si t'es d'accord, à moins que t'aies des choses à ajouter par rapport à ça.
Non, tout me paraît bien, on peut conclure, c'est déjà 1 heure qu'on parle ensemble, donc
ouais.
On va pas trop charger le podcast.
Non, et en fait, de ces réflexions, de nos techniques qu'on a chacun l'un et l'autre, qu'on a mis ensemble, on a créé, est née une formation qui s'appelle Recruteur d'élite, et où vraiment, on donne pas à pas toutes les étapes de A à Z, et je le dis, on part très très en amont et jusque on s'arrête juste avant l'intégration du candidat parce que c'était pas le sujet, et on part vraiment du début avant de contacter le prestataire et même d'avoir fait la fiche de poste. Je décris le processus de discussion avec les collaborateurs en amont et comment brasser les cartes avec eux, etc. Et on va jusqu'au bout, y compris en allant jusqu'à la manière de vendre le poste au candidat, avec les 2 mindsets. Et puis, on explique tout, c'est-à-dire comment on fait un refus à un candidat, comment on met un candidat en attente, etc., etc. Je pense que on a vraiment fait une formation ici qui est très détaillée, qui est pas à pas et qui respecte les principes qu'on a vus dans ce podcast. Le but du podcast ici, si vous décidez de pas prendre la formation, ce que je comprends tout à fait, hein, mais c'est déjà de vous donner les grands principes, l'état d'esprit dans lequel vous devez faire vos recrutements. Ensuite, si vous voulez être sûr de ne pas vous planter, si vous voulez gagner du temps, et je dirais même, hein, en rigolant, ce qu'on se disait, c'est que de toute façon, même le coût de la formation, il va être immédiatement absorbé à votre premier recrutement, parce que ce que vous aurez préparé grâce à la formation, finalement, ça va vous permettre de négocier beaucoup mieux votre contrat avec le prestataire. Donc on vous donne vraiment un truc qui est global. On a préparé des checklists, on a préparé un guide, on a même le guide des questions à poser en entretien. Tout à fait. On a les checklists, tout ce qu'il faut prévoir avant l'entretien. On a le guide d'entretien. Enfin, je pense qu'on a vraiment fait une approche détaillée, mais qui respecte les principes, à la fois tes principes en tant que recruteur chevronné et les principes d'outils du manager. Donc pour moi, c'est vraiment une formation majeure d'outils du manager, mais encore une fois, le but du podcast, c'est pas de la détailler, mais plutôt de vous donner les bons principes. Donc si vous voulez aller plus loin, je mettrai en description le lien pour aller vers la formation, ou bien si vous ne trouvez pas le lien, vous pouvez toujours aller sur le catalogue sur le site www.outildumanager.com et là vous choisissez la formation RDE, recruteur d'élite, et vous aurez un descriptif plus complet. Et si vous faites vite, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, là on est le 18 mai 2020, c'est la semaine du lancement de la formation, donc elle est accessible pour quelques places encore à un prix réduit, puisque je suis en train d'uploader tous nos modules, hein, là on a terminé, mais je upload tous les modules au fur et à mesure de la semaine. Je vais probablement uploader le module numéro 2 aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite de grandes réussites dans vos recrutements. Et puis Jérémy, je te remercie infiniment. C'était un partenariat intéressant. Et puis qui sait, je te donne rendez-vous peut-être pour une troisième interview dans
Avec, avec grand plaisir. Et une chose que j'aimerais rajouter avant de partir, c'est par rapport à la formation. Vas-y. On prend un exemple concret avec Cédric. On prend le cas de Jean-Paul.
Ah oui, c'est
tout
vrai.
Au long de la formation que l'on va suivre. Donc on va voir l'évolution de Jean-Paul qui part à la retraite et comment on va le remplacer. Histoire de vous projeter encore plus dans les démarches et vraiment concrétiser les informations qu'on va vous transmettre à travers de la formation.
Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça.
Le fameux cas Jean-Paul.
On remplace Jean-Paul.
C'est ça.
Il a mérité sa retraite. Allez, très bonne semaine à toi.
À
très bientôt.
À très bientôt.
Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah, en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.